Voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment? Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, chers amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. En ce dimanche 25 avril 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le Pentagone bombarde et bombarde l'Amérique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, Madame, Monsieur, la troisième et la dernière phase des essais cliniques du vaccin iranien du coronavirus, Coviran Barakat, qui débute en Iran. Le front de résistance donnera une réponse essentielle aux sionistes, déclaration du ministre iranien de la Défense. Et puis l'Irak est sous le choc après l'incendie de samedi. Le bilan des morts dans un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad passe à 82. Le chef de la diplomatie iranienne exprime sa solidarité. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La troisième et la dernière phase des essais cliniques du vaccin iranien du coronavirus Coviran Barakat ont débuté aujourd'hui à Téhéran, au cours desquels le vaccin a été injecté à 3 volontaires. Parmi ces volontaires, il y avait des responsables du Comité national de la lutte contre le coronavirus. La troisième phase des essais cliniques de ce vaccin made in Iran se réalisera sur 20 000 personnes dans 6 villes iraniennes, à savoir Téhéran, Boucher, Shiraz, Karaj, Mashhad et Isfahan. La phase 2 des essais cliniques du vaccin anti-Covid made in Iran, produit par la société Shafa du comité de l'exécution de l'ordre l'imam, une structure liée au bureau du leader de la révolution islamique, a débuté le 15 mars 2021 avec des injections sur 2 volontaires à l'hôtel Hiram de Téhéran. La première phase des essais sur l'homme du premier vaccin iranien anti-Covid a commencé le 29 décembre 2020. L'Iran a une longue histoire dans la production des vaccins humains. La première ligne de production du vaccin est mise en service en Iran en 1924. Le ministre iranien des Affaires étrangères a une fois de plus condamné ce qu'il a appelé le terrorisme médical des États-Unis contre les Iraniens. Dans un tweet, le très haut diplomate iranien a déclaré que les patients du Covid-19 en Iran souffraient des sanctions de Washington visant les médicaments et le matériel médical. Javad Zarif a ajouté que les Palestiniens ont également du mal à faire face à la pandémie alors que les États-Unis ont un excédent de vaccins. Ceci, comme il a ajouté, est dû à la position malveillante de Washington envers les Palestiniens. Le chef de la diplomatie iranienne a également appelé un programme international de vaccination pour lutter contre la pandémie. Le chef de l'état-major des forces armées iraniennes, général Boreri, a déclaré que les mesures anti-israéliennes récemment prises par les forces de la résistance et d'autres mesures similaires à venir encadreront le régime usurpateur. Le général de division Mohammad Boeri a déclaré qu'Israël pensait à tort qu'il ne recevrait aucune réponse à ses actes malveillants répétitifs contre la Syrie et ailleurs, y compris en mer. Le général Boeri n'a précisé aucun groupe en particulier, mais a promis que le front de la résistance donnera certainement au régime une réponse cinglante. Le ministre iranien de la Défense a également souligné qu'Israël ne connaîtra pas la paix s'il continue ses actes malveillants et crimes contre l'Iran. Les déclarations du très haut général iranien interviennent après qu'un missile syrien eut frappé près d'une centrale nucléaire dans la ville israélienne de Dimona. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne a déclaré que l'armée bénéficie des expériences passées et est consciente des menaces futures. Dans un discours prononcé lors de la cérémonie de dévoilement des résultats de recherche de l'armée dimanche, le contre-amiral Habibullah Sayari a affirmé que l'armée iranienne évaluerait les menaces et les menaces de l'avenir. Les jeunes Iraniens, dont les entreprises basées sur le savoir, ont des capacités décentes et n'ont pas besoin de compter sur d'autres pays, car ils bénéficient des capacités locales, a-t-il insisté. Le général Sayari a poursuivi en disant que l'armée formait ses propres forces humaines et répondait à ses besoins à l'intérieur du pays, ce qui avait été prouvé pendant la période de sanctions. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a condamné samedi les actions et les agressions du régime sioniste et des colons israéliens contre les lieux saints et les habitants d'Al-Quds, soulignant qu'il est urgent d'arrêter les actions brutales des sionistes. Louant la résistance et la résilience du peuple palestinien, en particulier des habitants et des jeunes d'Al-Quds, contre les sionistes criminels, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin aux violations des droits de l'homme contre le peuple palestinien sans défense et à ses actes à Al-Quds. Faisant référence à l'occupation continue de la Palestine et à ses crimes contre les Palestiniens, Khatibzadeh a déclaré qu'il était nécessaire de soutenir le mouvement de résistance jusqu'à la libération de la Palestine. La terre de Palestine appartient au peuple palestinien et le régime sioniste est un occupant et la seule solution à la crise palestinienne consiste à organiser un référendum parmi les principaux habitants de la terre de Palestine, a-t-il conclu. Sachez également que 12 Palestiniens blessés lors de l'attaque des militaires israéliens à Al-Quds occupés. Les forces militaires israéliennes se sont affrontées avec des manifestants palestiniens dans un contexte de tensions croissantes liées aux restrictions imposées par le régime de Tel Aviv sur les rassemblements pendant le mois sacré du Ramadan dans la ville occupée d'Al-Quds. Les forces israéliennes, certains à cheval, se sont heurtées à des manifestants dans un des principaux accès à l'esplanade des mosquées situées dans la vieille ville. Elles ont tiré des grenades assourdissantes pour disperser les Palestiniens en colère. Au moins 12 Palestiniens ont été blessés. Des affrontements ont également éclaté dans la ville d'Al-Khalil, où des manifestants ont lancé des pierres en direction des forces du régime qui tiraient des gaz lacrymogènes en cette période de mois sacré du Ramadan. Ailleurs, en Cisjordanie occupée, les Palestiniens ont incendié le drapeau israélien Naplouse, manière de soutenir les manifestants à Al-Quds. Les affrontements des derniers jours à l'ouest de la ville occupée de Quds ont commencé après que les militaires israéliens ont empêché les Palestiniens de s'asseoir sur les marches entourant la porte d'Hamas, un lieu où ils se réunissent le soir pendant le Ramadan. Et lorsque des colons extrémistes ont prévu de manifester à proximité pour provoquer les Palestiniens. Ces derniers jours, les Palestiniens vivant à Al-Quds occupés se sont mobilisés pour protester contre l'agression de l'armée israélienne et des colons. Les militaires de répression sionistes ne cessent de tirer des balles réelles et des grenades lacrymogènes sur les Palestiniens et les poursuivre. Pendant ce temps, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël en guise de solidarité avec les manifestants à Al-Quds. Israël a répondu en menant des frappes aériennes sur la bande côtière assiégée. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dit que l'armée israélienne était prête à tous les scénarios. L'Irak est sous le choc après l'incendie de samedi. Le bilan des morts dans un hôpital dédié au Covid-19 dans la capitale irakienne Bagdad ne cesse de s'alourdir. Il est passé à 82 morts. Le ministère irakien de l'Intérieur a déclaré qu'environ 110 autres personnes avaient également été blessées dans l'explosion. L'incident a été causé par l'explosion d'un réservoir d'oxygène. De nombreuses victimes se trouvaient sous respirateur quand des bonbons d'oxygène ont explosé. La défense civile irakienne a déclaré que le feu s'était propagé jusqu'à des produits hautement inflammables en raison du manque de système d'extinction d'incendie dans l'hôpital. Le premier ministre irakien a appelé à une enquête sur l'incident. Le secteur de la santé irakien a été épuisé par des décennies de conflits et de faibles investissements. Dans un message Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple irakien, exprimant la sympathie et la solidarité de l'Iran avec les victimes de drame. Les sources militaires syriennes ont rejeté les informations selon lesquelles un pétrolier iranien aurait été attaqué par un drone israélien près de la raffinerie de Baniyas en Syrie. Les responsables ont déclaré qu'aucune attaque ou opération militaire n'avait eu lieu contre le navire appartenant à la Syrie. Ils ont déclaré que l'incendie à bord du pétrolier s'était déclaré en raison de la négligence et du manque de mesures de sécurité lors d'une opération du soudage. Selon des sources syriennes, trois travailleurs qui soudaient sur le pont du navire ont été brûlés à la suite de l'accident, dont l'un a succombé à ses blessures. Les pompiers ont réussi à éteindre l'incendie qui a causé des dommages matériels limités aux camions-citernes. Enfin, l'armée yéménite affirme avoir mené des frappes de drones en représailles sur des cibles à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Le porte-parole de l'armée yéménite, Yahya Sari, a déclaré que deux drones KSF-K2 avaient pilonné la base aérienne du King Khalid dans la ville de Khamis Mushaïd au sud-ouest de l'Arabie saoudite. Le porte-parole a ajouté que l'attaque était une réponse à l'escalade de l'agression de l'Arabie saoudite et à la poursuite du siège du Yémen. L'Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une guerre meurtrière contre le Yémen en mars 2015 pour y ramener au pouvoir le président démissionnaire et fugitif Abd Rabbo Mansour Hadi. Les forces yéménites ont intensifié leurs attaques de représailles contre le royaume ces derniers mois. Ils exigent la levée du blocus sur le Yémen et la fin de la guerre qui a tué des dizaines de milliers de civils yéménites. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le Pentagone bombarde et bombarde l'Amérique. Les États-Unis ont enrôlé le déploiement F-15 de l'armée américaine pour intimider les dissidents et reproduire les manifestations en Californie, a rapporté le Los Angeles Times. Citant des sources militaires, le journal américain a rapporté le 24 avril que les avions de combat F-15 étaient en état d'alerte pour faire face à une vague de concurrence provoquée par les restrictions de coronavirus en Californie. Quatre membres de la garde nationale californienne affirment que les capteurs du F-15C sont toujours en alerte pour des missions internes, indiquant au Los Angeles Times que les capteurs sont utilisés pour intimider et disperser la population à basse altitude. L'armée n'a pas permis le déploiement d'un avion de combat F-15 à Fresno pour empêcher les manifestants d'utiliser des armes improvisées contre des civils américains. L'un d'entre eux déplore qu'il s'agisse d'un ordre totalement illégal qui déshonorera l'armée. La publication de ce roman a également été recherchée avec succès par certains législateurs américains. Cependant, un autre membre de la garde nationale californienne a utilisé les informations contenues dans le F-15 pour les utiliser pour récupérer des munitions, affirmant ne pas utiliser d'avion pour intimider les civils. Cependant, l'armée américaine a utilisé ces types d'avions de combat compte les plumes de l'Afghanistan et de l'Irak, selon le journal. Ce n'est pas une prémisse. La dernière voiture au plus des tensions aux États-Unis, le service des navires et la protection des fronts aux États-Unis pour confirmer l'utilisation de ces drones poursuivent les développements à Minneapolis. Il a été déclaré dans une communication que le drone a été utilisé pour fournir de la vidéo en direct à la demande de l'ordre fédéral de Minneapolis et pour mener à bien sa mission dans toutes ses parties uniquement sur le front. Pour ce qui est de la brutalité, la réputation de la police américaine est plus que suffisante, ces dernières étant l'individu de couleur qui a déconnecté les tensions et les tuyaux généralisés à travers les États-Unis. Image publiée quelques jours seulement après le prononcé du verdict contre l'agent accusé d'avoir tué George Floyd, l'Afro-Américain, évincé sous la pression du nouveau gène, avec une scène dans laquelle la police de Michigan a brutalement tué un homme noir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cette récence des événements qui se sont produits en fait à l'intérieur d'Israël. Si vous avez suivi l'actualité, vous vous en êtes rendu compte, une forte explosion s'est produite dans l'une des usines d'armement du régime israélien où on fabriquait des moteurs de missiles. Les autorités israéliennes ont tout fait pour minimiser ces événements, mais cette forte explosion, en fait, a été largement relayée, surtout sur des réseaux sociaux. Et il y avait également ce tir de missiles depuis le territoire syrien. Ce missile qui s'est abattu près de la centrale nucléaire de Dimona. Et cela a suscité, si vous voulez, un état de panique au sein des autorités israéliennes, à tel point que le porte-parole de l'armée israélienne a reconnu ouvertement l'échec de la DCA de l'armée israélienne. Il a dit que voilà, la DCA de l'armée avait échoué à intercepter ce missile tiré depuis le territoire syrien, le missile qui s'est abattu. Il faut en fait mettre l'accent sur ce point tout près de la centrale de Dimona. Et dans le même temps, Abdelbari Atman, rédacteur en chef du journal en ligne à Rayal Yaoum, a déclaré, tout en faisant son commentaire sur ce tir de missile contre le régime israélien, le tir de missile qui s'est abattu près de la centrale de Dimona, a dit que voilà, cela montre que la patience stratégique de la résistance était arrivée à bout. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, de Maître Arnaud Devollet. Maître Devollet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Devollet, c'est une analyste franco-syrienne qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssa Midani. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à vous, à l'équipe Prestige et à Monsieur Devollet.
Madame Midani, je viens de lancer le sujet, c'est récent si vous voulez, développements qui se sont produits en fait en Israël, cette explosion dans cette usine importante et sensible de fabrication d'armements, également ce tir de missile tiré depuis le territoire syrien qui s'est abattu en fait tout près de la centrale nucléaire de Dimona. Et permettez-moi de faire cette en fait précision que ce tir de missile a eu lieu suite à une agression israélienne, à une nouvelle agression israélienne contre le territoire syrien. Madame Midani, votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, c'est effectivement, ce sont les faits qui montrent d'abord que aujourd'hui, la patience stratégique a atteint un certain point qui permet aujourd'hui de riposter. Et du tac au tac. Les agressions israéliennes se sont multipliées contre la Syrie, mais aussi, on peut rappeler quand même cette agression contre la centrale nucléaire de Natanz. On peut rappeler l'agression israélo-américaine contre l'est de la Syrie. Donc là, effectivement, la riposte de l'axe de la résistance vient, pour dire, haut et fort. D'abord, la centrale de Natanz a été remise en route et au contraire, la salle qui était touchée a vu tous ces réacteurs renouvelés, tous ces appareils renouvelés avec la nouvelle génération. Immédiatement, l'augmentation de l'enrichissement d'uranium à 60% a été aussi la riposte importante. Et puis, à peine quelques jours plus tard, donc cette explosion dans la fabrique des missiles israéliennes, c'est une grosse explosion, en fait, hein, qui a détruit pas mal de choses et que les Israéliens ne daignent pas reconnaître ou essayent de ne pas reconnaître pour pas créer de panique. Hein. Et donc la riposte syrienne avec ce missile aussi qui est tombé à quelques kilomètres de Dimona, qui est un grand message, je dirais, de l'axe de la résistance à Israël, qui montre à quel point, qui leur dit, vous êtes très fragile, vous avez intérêt à ne pas trop... vous prévenez d'une part de votre force, de ne pas agresser. Et puis, de toute façon, ce que vous présentez comme étant une grande protection, ce dôme d'acier, les différentes protections sur la frontière nord de la Palestine occupée, donc elles ont là ce missile a traversé toutes ces barrières. Il n'a pas été détecté. Il est arrivé à quelques kilomètres de Dimona. Nous, on ne veut pas faire la grosse explosion atomique, nucléaire, mais c'est une mise en garde assez forte, je dirais, à Israël et les alliés d'Israël dans la région aussi, qui se pavanent aussi de leur force et de leur capacité à mettre à genoux le peuple syrien et tous les pays et tous les pays de l'axe de la résistance. Donc en fait là c'est vraiment une riposte qui met les points sur les i. Ajoutez aussi au discours ferme du président Poutine en ce qui concerne les agressions. Les ingérences américaines et les agressions israéliennes. Donc, je voudrais ajouter aussi un point qui est très important dans cette série d'événements, c'est la création d'un comité mixte iranien, syrien et russe pour briser l'encerclement de la Syrie, briser l'embargo contre la Syrie, en mettant en place donc ce comité de protection des convois d'aide à la Syrie, d'aide en produits pétroliers, en céréales, etc., et qui seront protégés par des bateaux de guerre russes. Donc, ça, c'est aussi un point important qui permet de dire, donc on met fin aussi à cet encerclement de la Syrie, à cette tentative d'affamer le peuple syrien pour le mettre à genoux et pour qu'il accepte le diktat américain et qu'il accepte aussi qu'il y ait de protéger Israël, etc. Et qu'Israël a intérêt à se tenir tranquille dans tout ça parce que les prochaines ripostes seront beaucoup plus importantes et peut-être destructrices totalement de cet état, de cette entité d'occupation.
Merci beaucoup. Maître de Volet, vous êtes à Damas, vous suivez en fait près ces événements. Est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Mme Midani, que en fait ces récents, si vous voulez, développements, très particulièrement ce tir de missile qui s'est abattu à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Dimona, a été, pour reprendre l'expression de Mme Midani, un message de l'axe de la résistance au régime israélien et à ses alliés, autrement dit, une mise en garde de l'axe de la résistance au régime israélien et à ses alliés, très particulièrement les États-Unis.
Et écoutez, je pense qu'il faut prendre cet épisode dans le cadre d'un contexte qui voit des élections présidentielles avoir été annoncées et qui auront donc lieu le 26 mai, ce qui politiquement est un marqueur extrêmement significatif, c'est-à-dire qu'après une campagne de 10 ans visant à démanteler l'État syrien et à donc poursuivre cette stratégie régionale de fragmentation, les tentatives en question ont échoué de manière cuisante. Et donc, au-delà de cet état de fait, il y a aussi le fait que les sanctions sous le régime de la loi César, qui avaient pour but de sectionner les différentes composantes de la résistance afin que l'axe américano-sioniste puisse gérer ces différentes composantes de manière séparée et adaptée au contexte particulier, effectivement, et comme Mme Milani l'a souligné, les alliés de l'axe de la résistance plus la Russie se sont maintenant mis d'accord pour créer une synergie qui permettrait de contourner, à l'instar de ce que la République islamique d'Iran avait fait au mois de mai dernier avec le couloir maritime jusqu'au Venezuela, une alternative qui permettrait à cette stratégie de siège d'être complètement rendue caduque. Donc, dans ce contexte-là, nous avons effectivement les tentatives israéliennes d'essayer de provoquer l'Iran, créer des incidents qui mettraient à mal les discussions qui ont lieu actuellement à Vienne, et ceci sans préjuger du mérite de ces décisions, de ces processus de négociation, en eux-mêmes, mais en tout cas, c'est quelque chose que les Israéliens ne voient pas d'un très bon œil du tout, ce qui fait que, en fait, tout semble en fait se s'écrouler en ce qui concerne les objectifs israéliens. À telle enseigne que, alors même que depuis maintenant au moins le plus mois de juin 2020 et l'installation des Corbat 3 aux frontières syriennes, il est impossible maintenant pour l'aviation israélienne de pénétrer l'espace aérien syrien. Ces derniers, en dépit de leur impuissance, continuent à régulièrement effectuer des raids aux missiles balistiques sur la Syrie. Sauf que cette fois, et sur ce point précis, l'armée syrienne a rétorqué et c'est sur la base d'un missile S-200 qui est un missile qui, même s'il a pu subir des modifications, nous ramène quand même à l'époque soviétique. Hein, donc on ne parle pas des tout derniers missiles, des derniers cris, dont l'Iran a le secret maintenant, que les Américains eux-mêmes, par le pied de McKenzie, ont reconnu encore il y a à peine 24 heures, a réussi effectivement à percer le dôme de fer, la couche multicouche, le système multicouche anti-aérien israélien, financé à raison de plusieurs milliards de dollars sur le contribuable américain, j'ose le souligner, Et alors même que le secrétaire de la défense américain Austin était venu il y a quoi, une dizaine de jours, pour inspecter un petit peu le dispositif, le système, et qui laisse entendre maintenant que si un S-200 peut perforer ce système dit imprenable, vous pouvez imaginer qu'avec les centaines de missiles qui maintenant encerclent littéralement l'entité sioniste, ce genre d'action maintenant révèle que les capacités ne sont pas celles qui ont été mises en avant, que l'intoxication portant sur une supposée invisibilité de l'État sioniste et une supériorité militaire à tous les niveaux dans la région, c'est pareil, c'est complètement mis à l'eau maintenant. Et qui plus est, ça laisse entendre au sein de l'opinion publique israélienne que leurs dirigeants sont prêts à prendre des risques avec, avec leur sécurité, puisqu'après tout, et l'Iran est bien placé pour en parler, c'est que le terrorisme nucléaire, qu'il soit effectué au travers d'explosifs ou d'attaques cybernétiques, quand il s'agit d'une installation nucléaire, peut mener à des résultats extrêmement graves, avec des contaminations à grande échelle. Et il sera intéressant, à l'aune de ce constat, de voir maintenant comment l'opinion publique israélienne, et surtout certains dirigeants israéliens, pour peu qu'ils soient cohérents avec la charge qu'ils devraient avoir de leur population, vont réagir à cet état de fait.
Madame Midani, selon Maître de Volée, tout s'est écroulé en ce qui concerne les objectifs des Israéliens. Monsieur de Volée, qui vient d'insister sur ce point également, que en fait un seul missile est tiré depuis le territoire syrien et est arrivé en fait à perforer ce de système de défense aérienne israélien, pour en fait lequel des milliards de dollars avaient été dépensés, mais ce système s'est avéré, si vous voulez, totalement inefficace face à un missile quand même d'une ancienne génération. Maître de Volée vient en fait de décrire la situation où en fait des centaines ou bien des milliers de missiles, surtout de fabrication iranienne, s'activeraient, si vous voulez, contre le régime israélien, Madame Midani.
Tout à fait. En fait, ça montre, cet épisode montre à quel point Israël, qui se pavane en disant on est la force la plus indomptable et la plus invincible du monde ou du Moyen-Orient, en fait, là, ça montre à quel point cette défense est fragile et presque inexistante face aux forces de la force de l'axe de la résistance, d'une part. D'autre part, ça montre aussi les mensonges qu'ils perpètrent face à la population, à leur population, en disant on est fort, on peut être protégé. D'ailleurs, ce qui explique l'état de panique de la population, mais pas seulement, mais aussi les accusations que se sont envoyées les différents membres du gouvernement en place de l'entité sioniste, qui entre Benny Gantz, qui envoie des accusations à Netanyahou, l'accusant de mettre en danger la sûreté, la sécurité d'Israël pour des fins personnelles et pour des combats personnels et politiques, entre Lieberman, qui est en fait le plus très jusqu'au boutiste, je dirais, au niveau sioniste, qui a exactement dit toute notre défense a été écrasée par cet événement. Et en fait, donc, il y a des cris d'alarme au sein du gouvernement israélien et au sein des officiels, mais aussi le fait qu'il y ait eu au niveau de la communication, au niveau de l'information concernant ces faits qui ont commencé par être complètement contradictoires, qui disent non, c'est arrivé à... Ah, non, c'est pas un missile syrien, non, c'était un missile sol air qui s'est glissé, qui n'avait pas bien visé son but et qui est tombé là par hasard, etc. Donc ces contradictions, cette volonté de cacher à la population, mais qui n'ont pas pu cacher longtemps, etc. Même d'ailleurs l'explosion de l'usine de fabrication de missiles, aussi de moteurs de missiles, elle a été cachée à la population en disant oh c'était un petit une petite erreur technique, etc. Donc tout ça, ça montre à quel point il y a une grande fragilité et puis en même temps il y a aussi une gêne politique et un schisme qui se crée au sein de l'entité sioniste, hein, mais de leur propre pouvoir.
Merci.
À quel point d'ailleurs il y en a un qui a dit, Benny Gantz, il a dit ils vont arriver à vider notre pays sans tirer aucune bombe.
Merci beaucoup, Maître de Volet. Madame Midani vient en fait d'évoquer de ce point que l'état de panique au sein du régime israélien est tellement, si vous voulez, important et à tel point que en fait les autorités israéliennes ont tout fait pour cacher, si vous voulez, cette explosion produite dans cette usine de fabrication de missiles, d'une part, et d'autre part, elles ont commencé à s'accuser mutuellement, Maître de Volet.
Oui, tout à fait. C'est un régime aux abois, de toute façon, hein, et on peut le voir à l'aune des événements de ces deux derniers jours, avec des disputes en interne, des récriminations. On voit très bien qu'en fait, la dernière de leur occupation, c'est la protection de leur population. Tout est une question d'opportunisme politique, même si cela doit passer par de l'aventurisme militaire, alors même que maintenant, plus que jamais, on réalise qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions militairement parlant, si ce n'est de prendre le risque de mettre eux-mêmes l'existence de leur projet en danger, ce qui est complètement suicidaire. Donc, à l'aune des déclarations confuses, contradictoires et effectuées avec zèle, portant effectivement, comme vous le soulignez, sur l'usine de fabrication de moteurs à missiles, alors qu'il aurait mieux valu ne pas communiquer du tout. Or, c'est justement ce qu'ils ont l'habitude de faire quand les choses sont un peu plus sous contrôle. Ils ne communiquent pas, ils ne nient pas et ils n'affirment pas. Mais en tout cas, voilà. Or là, on a vu une effusion de déclarations et de communiqués portant sur une négligence, alors qu'il a pu être observé que l'intensité de l'explosion et la durée durant laquelle cet incendie a eu lieu dans cette usine ne caractérise pas juste une simple explosion ou un simple incident qui porterait sur un test. Donc il s'agit d'autre chose. Plus ils en rajoutent, en fait, plus ils confirment que la version officielle n'est pas la bonne. Il en va de même avec la situation, l'incident, si je puis dire, de ce missile S-200 qui trouve le moyen de parcourir près de 400 km alors qu'il a un rayon d'action de 300. Pour peu que, comme Mackenzie lui-même l'a souligné, ce n'était pas intentionnel de la part de la DCA syrienne, c'est encore pire, un aveu que, en fait, alors même qu'aucune offensive de taille n'a été initiée contre le régime israélien, une simple réaction sans intentionnalité, mais complètement l'État israélien en émoi, avec les sirènes autour du complexe nucléaire israélien, qui est le cœur, qui est le joyau, en fait, du complexe militaro-industriel israélien. Donc, en fait, le tigre est un tigre de papier. Et maintenant, le monde avait des doutes sur le sujet. Le doute n'est plus permis, maintenant.
Maître Arnaud de Volit, juriste français spécialiste des questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. Mes vifs remerciements vont également à Mme Aïssa Midanit, analyste franco-syrienne qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité africaine. Tchad, l'armée promet de rendre le pouvoir aux civils dans 18 mois. Au Tchad, le Conseil militaire de transition, CMT, dirigé par le général Mahamat Idriss Déby, fils du président Idriss Déby, décédé mardi des suites de blessures reçues au front contre des rebelles, a exprimé sa volonté de céder le pouvoir aux civils à l'issue d'une transition de 18 mois, tout en appelant à l'unité et au dialogue. Mardi dans la matinée, le porte-parole de l'armée tchadienne, le général Azem Bermondoa Agouna, a annoncé à la télévision nationale le décès du président Déby, au pouvoir depuis 30 ans. Dans une autre déclaration, le général Agouna a précisé que le président défunt avait été blessé alors qu'il avait pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il est décédé une fois rapatrié à N'Djamena, la capitale. Après avoir informé les Tchadiens du décès de leur président, le général Agouna a décrété la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement et la mise en place d'un conseil militaire de transition pour une durée de 18 mois. L'Union africaine exprime ses condoléances après la mort du président tchadien Déby. L'Union africaine a exprimé mardi soir ses condoléances à la famille et au peuple tchadien à la suite du décès du président tchadien Idriss Déby. Le regretté président Déby a joué un rôle dans la promotion de l'agenda de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité et il était un fervent partisan des efforts de l'Union pourrait créer un environnement de sécurité et de stabilité, en particulier dans la région du Sahel, a déclaré le bloc panafricain dans un communiqué. L'Union africaine s'est dite solidaire du gouvernement et du peuple tchadien en cette période difficile, se joignant à eux pour pleurer la perte d'un champion des efforts africains en faveur d'un continent pacifique et sûr et stable. L'armée algérienne va participer à un exercice militaire en Russie. L'armée nationale populaire va participer en Russie dans quelques mois à un exercice militaire conjoint avec l'armée russe, a annoncé ce mercredi le ministère de la Défense russe dans un communiqué. L'exercice se déroulera au mois de septembre prochain en Ossétie du Nord, au centre d'entraînement militaire de Tarskoï, près de la frontière géorgienne, au sud-ouest de la Russie. L'exercice militaire portera sur les actions tactiques visant à rechercher, détecter et détruire des groupes armés illégaux, précise le communiqué du ministère russe de la Défense. Environ 80 unités de la 58e division interarmée de la région militaire du sud russe participeront à cet exercice, ajoute le ministère russe de la Défense, sans indiquer le nombre d'unités de l'armée nationale populaire algérienne
qui participeront à cet exercice conjoint. Le plan d'entraînement au combat des troupes de la région militaire sud en 2021 prévoit la participation du personnel militaire de la région militaire sud russe à des exercices internationaux avec des unités de forces armées d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud, d'Arménie, d'Algérie, d'Inde, du Kazakhstan et du Pakistan, a fait savoir le communiqué soulignant que les activités internationales conjointes sont menées conformément au plan de coopération militaire internationale et visent à renforcer et à développer la coopération militaire entre les pays. Le Niger proroge de 3 mois l'état d'urgence dans l'est et l'ouest du pays. Le gouvernement nigérien a adopté de jeudi un projet de décret portant prorogation de 3 mois à compter du vendredi 23 avril de l'état d'urgence dans la région de Diffa, située dans l'est du pays et dans certains départements des régions de Tillaberi et de Taoua dans l'ouest du pays, a annoncé le gouvernement nigérien dans un communiqué. Depuis l'avènement de la secte Boko Haram, la région de Diffa est exposée à une menace terroriste qui revêt désormais un caractère durable, a indiqué le gouvernement, ajoutant qu'il décide de recourir à nouveau aux mesures prévues en période de crise. Selon le gouvernement nigérien, le phénomène d'insécurité s'est également exacerbé dans la région de Taoua et dans la région de Tillaberi. Toutes ces régions du Niger subissent depuis quelques années des attaques à répétition de forces terroristes, notamment le groupe de Boko Haram dans certaines localités de Diffa à partir de ses positions nigériennes et des groupes terroristes venus du nord du Mali dans l'ouest du Niger. Ces mesures exceptionnelles visent à permettre aux forces de défense et de sécurité déployées dans ces zones de disposer des moyens juridiques nécessaires pour maintenir et établir l'ordre et la sécurité publique, a conclu le communiqué. Libye, la production de pétrole interrompue. En Libye, la production de pétrole est à l'arrêt après le rejet du budget national. Mardi, la Chambre des représentants libyenne a refusé la proposition du nouveau budget. Cette décision fait enrager les opérateurs des sites pétroliers comme la Compagnie nationale du pétrole qui a décrété l'état de force majeure. Cette décision signifie que la compagnie peut s'exonérer de sa responsabilité juridique auprès de ses clients en cas de non-respect de livraison. Mustapha Sanalla, patron de la Compagnie nationale du pétrole, dit n'avoir reçu que 2% des besoins de sa structure cette année. La production et l'exportation de l'un des principaux terminaux pétroliers de l'est du pays ont été interrompus. Cette interruption consolide la querelle de l'entreprise avec la Banque centrale qui refuse de débloquer le secteur pétrolier, pourtant vital pour l'économie du pays déjà en difficulté. La Chambre des représentants libyenne a 10 jours pour proposer un nouveau budget. Burkina Faso, plus de 470 000 tonnes de coton produites en 2020. Le Burkina Faso a produit au total de 472 000 tonnes de coton durant la campagne de cotonnière 2020-2021 avec un rendement moyen de 847 kg hectare, soit une hausse de 7% par rapport à la précédente, a annoncé mercredi le gouvernement burkinabé dans un rapport publié à l'issue du Conseil des ministres. Selon la même source, la production totale de coton graines biologiques fait ressortir 1 500 573 tonnes, soit une augmentation de 13% par rapport à la campagne précédente, alors que le rendement moyen au champ reste maintenu au même niveau, soit 390 kg par hectare. Pour la prochaine campagne 2021-2022, les intentions de culture sont évaluées à 663 261 hectares pour une production attendue de 627 500 tonnes. Projette le gouvernement burkinabé. Le conseil des ministres a félicité les producteurs et les acteurs de la filière coton et a instruit les ministres chargés du dossier de réunir les conditions pour le succès de la prochaine campagne cotonnière, indique le rapport. Le coton est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso après l'or et les produits de l'élevage. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, cette émission s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.